Comme à chaque étape, vous serez emporté par le flot puissant de l'histoire.
L'envol de la caravelle.
Allô, tour d'Orly, caravelle FBHRA, paré pour le décollage. Allez-y.
La rapide, la sûre, la douce caravelle.
La caravelle, le mirage ou la déesse sont souvent attribués à l'époque du général de Gaulle. Eh bien non! Ils apparaissent tous trois ensemble dès 1955. La 5e République organisera l'orchestration de ses réalisations phares, mais la composition en est signée par la 4e République. C'est la production automobile qui a donné le branle. Cependant, les gouvernements de la 4e cherchent à rendre à l'aéronautique française une part de son lustre d'antan. En 1957, est constituée pour développer la caravelle, une société plus grande que celle d'origine, c'est Sudaviation, basée à Toulouse avec un capital d'État à 99,9%. Le vrai président de l'avion vedette, c'est le patron de Sudaviation, Georges Herey, dit « Jojo la caravelle ». Il soutient que le succès ne deviendra un triomphe que si l'avion se vend aussi aux États-Unis, ce ne sera guère le cas, et que s'il est décliné longtemps dans des versions nombreuses. Or, dès 1962, l'effort est porté sur le futur Concorde. Herey démissionne en 1963, et dès 1964, le général de Gaulle se demande si le Concorde pourra jamais être rentable. Le choix de la caravelle, c'est une réussite de la 4e. Le choix du Concorde, c'est la responsabilité de la 5e.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Gérard Felzer, bonjour.
Bonjour.
Alors les auditeurs de Radio France vont vous reconnaître, vous êtes chroniqueur à France Info. Certains vont dire, ah bah vous n'êtes pas allé chercher bien loin Lebrun. Bah oui, mais enfin, vous avez été pilote de caravelle.
Oui.
Vous avez été le premier civil directeur du musée de l'air et de l'espace au Bourget.
Oui.
Où la caravelle s'est envolée en vol public dès 1955. Le poste de pilotage de la caravelle ?
Un peu compliqué. En fait, on sortait de la guerre quand on a commencé à faire un appel d'offres pour faire la caravelle. En gros, un avion qui ferait 65 places sur 2000 km. On a été plus loin. Et donc, on a opté pour une véritable innovation. Mais le cockpit, on l'a récupéré d'un avion anglais qui s'appelait le Comet. Il avait la mauvaise idée d'exploser en vol. Donc, ça a retardé un tout petit peu les coopérations avec les Anglais. On a récupéré le cockpit. Donc, il y avait des pendules partout. Des pendules, c'est les instruments ronds avec les aiguilles. Hein. Les ordinateurs n'existaient pas encore. Et moi, quand je suis arrivé dans cet avion, il y a deux choses qui m'ont surpris. Cet ordonnancement des instruments un petit peu partout, des fois on était même obligé de se retourner. On avait un mécanicien navigant à l'époque qui avait un panneau sur le côté avec lui plein d'horloges. Et puis, en effet, la qualité de pilotage. La qualité de pilotage, c'est vrai que c'est un avion doux aux commandes. Et pourquoi c'est un avion doux ? Parce que ça a été le premier avion de transport civil qui avait ce qu'on appelle des servocommandes. C'est-à-dire, lorsque vous tirez sur le manche, c'est pas des câbles qui allaient sur la gouverne, ça passait à travers de l'hydraulique justement pour adoucir les gestes. Et ça en faisait un avion d'avant-garde.
Pourquoi ? Alors, on va entendre les questions qui étaient posées dans Questions pour un champion de l'époque. Ça s'appelait 10 contre 1. C'était en 1959 à la télévision débutante par Étienne Laloux. Étienne Laloux est face à des lycéens des meilleurs établissements de France. Vous voyez le genre, le Parc à Lyon, Thiers à Marseille. On va voir, Gérard Felzer, si vous auriez gagné. On gagnait même pas de voyage en caravelle. On gagnait un voyage à Londres, un voyage à Bruxelles ou bien des électrophones si on n'était pas excellent.
Eh bien, c'est sur ce caravelle que nous allons vous poser les trois premières questions. Écoutez-les bien, elles valent chacune 2 points. Il y a donc 6 points en tout sur caravelle et je vais vous poser les 3 questions à la suite. Premièrement, quels sont les principes techniques qui ont permis la mise au point de la stabilité en croisière et de l'insonorisation de caravelle.
La position des réacteurs.
Deuxièmement, quel est le principe technique qui a permis à caravelle, après avoir réduit ses réacteurs, d'aller en vol plané d'Orly à Dijon, c'est-à-dire la distance de 265 km. Troisièmement, pourquoi les hublots de caravelle ont-ils une forme ovoïdale plus large en bas qu'en haut? Vous avez 1 minute pour répondre à ces 3 questions. Vous avez encore 20 secondes. C'est fini, s'il vous plaît.
Bah oui, c'est vrai, Gérard Felzer. C'est pourquoi les hublots ont-ils cette forme ovoïdale? On a dit dans la publicité de la Caravelle, il dit ce Caravelle, la Loue, encore en 1959, que les hublots avaient une forme de cœur.
Oui, c'est vrai que c'est un avion joli, il fallait qu'il soit différent, donc on a modifié la taille et la forme des hublots. C'est une forme un peu féminine, c'est la Caravelle, donc les hublots sont triangulaires. Du
mais
point de vue résistance,
l'explication, c'est pas une forme féminine.
Il y a aussi beaucoup. Si. Hein, on attachait beaucoup d'importance à l'esthétique. Vous savez, Dassault disait un avion qui est beau, il vole bien. Il n'avait pas tout à fait tort. Et là, du point de vue technique, il est vrai que lorsqu'on a trois côtés, c'est comme les sièges, hein, qui ont trois pieds, c'est plus stable qu'avec quatre pieds. Et là, c'est moins fragile qu'avec quatre côtés parce que les contraintes se situent dans les coins. Et donc, il y a une forme qui est plus adaptée à la résistance des matériaux. C'est ce qui avait, d'ailleurs, on a fini par comprendre, provoqué les accidents des comètes qui explosaient en vol à cause des hublots qui partaient avec la pressurisation.
Les comètes n'ont pas fait long feu face à la Caravelle. Les grands principes alors de mécanique des fluides à expliquer aux lycéens de Thiers, Marseille et du Parc Lyon.
Alors, je pourrais l'assimiler lorsque vous prenez une douche. Prenez une douche et il y a un rideau de douche et quand il y a la pression de l'eau, et ben le rideau de douche il se colle à vous parce qu'on crée une dépression. Et bien cette dépression, c'est ça qui fait voler l'avion. Et quand la forme de l'aile est bien adaptée, vous avez une grosse dépression qui, ce qu'on appelle la portance. Et c'est comme ça que ça plane. Et l'aile de la Caravelle était très bien faite puisqu'elle avait, pour l'époque, ce qui était considérable, une finesse d'environ 20 à 22. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes à 10 km d'altitude, vous êtes capable de planer sans moteur pendant 200 km.
Donc c'est l'explication du vol plané Paris-Dijon.
C'est la finesse, c'est exactement
ça. Dont il était question dans le jeu 10 contre 1. Il va falloir que vous nous expliquiez maintenant qui a fabriqué Caravelle, combien de temps il a fallu. C'est vers 51-52 qu'on commence à réfléchir à la question.
Oui, et à l'époque, cet avion, il a été fait avec une règle à calcul. Hein. Il n'y avait même pas de calculatrice. Donc, vous voyez le travail qui était fait. On l'a essayé dans des souffleries, notamment la soufflerie à Meudon. Une soufflerie qui est classée, d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir, c'est formidable. Une immense soufflerie. Et puis à Modane, c'est une soufflerie qu'on avait piquée aux Allemands parce qu'ils étaient déjà, ils avaient beaucoup d'avance pendant la guerre.
C'est avec la soufflerie qu'on jette des poulets morts sur les hublots, pardonnez.
Oui.
Chers auditeurs qui déjeunaient encore à cette heure-ci, cette allusion.
Absolument. Dans une autre vie.
Pour tester la résistance.
Oui, dans une autre vie, j'étais ingénieur en aéronautique. On faisait des essais de solidité des pare-brises. Pas que des avions d'ailleurs, des TGV à l'époque, et on lançait des poulets au canon. Il y avait un canon à poulet. Alors, il y a une petite anecdote, si on a 30 secondes, ce sont des essais qui avaient été faits en Angleterre sur les pare-brises de train, et les pare-brises explosaient. Ils ont dit comment ça se fait, la force est trop forte, et on leur a répondu la prochaine fois, prenez des poulets non congelés.
La société Sud-Aviation, dont je disais tout à l'heure qu'elle a développé la Caravelle, est née de la fusion de deux sociétés, l'une d'entre elles ayant porté le projet.
Oui, on avait beaucoup de dispersions, l'ANSCASE, l'ANSCASO, etc. Ce sont des sociétés nationales aéronautiques du Nord, de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Midi. Et celle du Midi, c'est celle qui est à Toulouse. Donc on a fait travailler plusieurs équipementiers ou plusieurs parties de l'avion à Nantes, Saint-Nazaire. C'est comme ça que ça a commencé et ça continue aujourd'hui avec l'Airbus 380. Et puis on a assemblé l'avion. La première chaîne d'assemblage s'est faite à Toulouse et on sait ce que c'est devenu aujourd'hui.
Le général de Gaulle le revoilà, bien sûr, c'est lui qui orchestre le mythe de la Caravelle, visite Sud-Aviation en février 1959. La petite histoire dit que les ouvriers qui auraient été susceptibles de huer, vous savez, comme ont eu le président de la République aujourd'hui, au
tradition.
Mans et peut-être au Bourget, on les avait consignés dans la cantine.
Je suis profondément impressionné, messieurs, de ce que je vois en venant à Sud-Aviation. La splendeur, je peux le dire, l'immensité, ce qu'il y a de moderne, de neuf, de bien fait. Et puis c'est vous tous, et vous toutes aussi, mesdames, qui m'impressionnez. Vous avez de la chance, permettez-moi de vous le dire, parce que tous, toutes, autant que vous êtes, vous faites partie d'une grande œuvre. Il sort de chez vous en exemplaires de plus en plus nombreux. La rapide, la sûre, la douce caravelle.
Au fond, il y avait deux grandes usines modernes qu'on faisait visiter aux chefs d'État étrangers, Sud Aviation à Toulouse et puis Flins. L'usine à la campagne Renault. De Renault.
Oui, absolument, ça faisait partie de cette même époque. Et puis, il y a aussi l'usine Citroën d'Aulnay, qui est arrivée après, mais il y avait déjà la DS. Donc, on était dans une logique d'euphorie d'industrie. Sauf que, on a l'habitude de faire de très beaux objets en France, mais on a beaucoup plus de mal à les vendre.
On y viendra tout à l'heure. Je voudrais que vous nous décriviez davantage le tissu connexe, parce que quand le général de Gaulle arrive à Sud Aviation, il y a 25 000 personnes qui travaillent pour la Caravelle, mais elles ne travaillent pas toutes nécessairement à Sud Aviation. Qu'est-ce que c'est le tissu connexe, le tissu conjonctif de l'industrie aéronautique?
Eh bien, c'est une recherche tous azimuts, c'est-à-dire que un avion est construit autour d'un moteur déjà. Le moteur, fallait le trouver, donc on a trouvé l'anglais, c'est plus facile que de faire un moteur en France. Et puis ensuite, un avion, c'est l'aérodynamique, donc les ailes, là, purement français, et puis il y a tout l'intérieur, la décoration intérieure de l'avion, où il y a du tissu qui n'est pas fongicible, c'est-à-dire qui ne doit pas émettre des gaz toxiques, et on a appris avec un accident de caravelle, justement, que ça pouvait arriver. Donc tout cet ensemble de choses fait que on a poussé la recherche au-delà de ce qu'on avait véritablement besoin. Ça a été un laboratoire qui a préparé la recherche future et il y a eu des applications.
Oui,
des applications dans la vie civile.
Je vous arrête quand même. Le cockpit, c'est anglais. Et le moteur, vous avez dit, c'est Rolls-Royce. Alors le général de Gaulle, Alain Perfit, dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pays où tous ces zigotos, il désigne là les polytechniciens et les centraliens, ne sont pas fichus de faire un moteur d'avion.
C'est vrai. Et il est vrai que la Snecma, qui a fait les moteurs d'aujourd'hui, on parlait allemand dans ses bureaux d'études. En fait, à la fin de la guerre, on a été piquer les savants allemands pour les faire travailler alors aux États-Unis, en Russie et en France. Et les réacteurs Attard, qui a équipé les Mirages, et jusqu'à aujourd'hui, ont été avec les technologies allemandes. Ils nous ont appris, malgré eux, parce qu'ils étaient réquisitionnés, comment on fabriquait les réacteurs. Et les premiers réacteurs, qui étaient ceux du Messerschmitt 262, un redoutable chasseur à la fin de la guerre, on a pris les applications pour pouvoir fabriquer nos propres moteurs, mais on avait du retard par rapport aux Anglais et par rapport aux Américains.
Vous me direz que ça a du bien, du bon, un moteur Rolls-Royce, c'est excellent pour l'écoute de la musique.
Oui.
Le président Erey. Jojo la Caravelle,
oui.
C'est un personnage important.
Oui, et puis il y avait une fusion aussi. Ça se passait pas comme aujourd'hui. Air France était de l'État, Sud Aviation était de l'État. Ça se passait de État à État et les commandes étaient quand même plus simples.
Le président Erey disait que sur Caravelle, on pouvait écouter Mozart dans les meilleures conditions.
La mise en service par Air France d'un simulateur Caravelle permet désormais de familiariser les équipages avec la manœuvre de ce biréacteur. C'est le vol immobile. Parcours imposé, Orly-Nice, mais à la verticale de Saint-Tropez, un incident de vol latent.
J'ai bu d'un trait deux Finalo et trois whisky, et puis après quelques Porto avec Johnny. Derrière son bar, je le voyais tout petit. Oh, quelle nuit!
Caravelle, le plus insonore des studios d'enregistrement. Sacha Distel et ses musiciens l'ont choisi pour battre le record d'altitude de l'enregistrement musical. Dès que l'altimètre indiqua 10 300 mètres, le fiancé en titre de Brigitte Bardot attaqua sa chanson.
Au petit jour, je suis rentré caca. Tu m'attendais sur le palier en pyjama. Quand tu m'as vu, tu m'as tendu les bras.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Bon pour le son.
Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Pour la vie.
Le premier envol public de la Caravelle, c'était en 1955 au Salon de l'aviation du Bourget. Un livre a été publié depuis aux éditions Privas par Pascal Montmarson-Frémont et Véronique Damas-Perrault. Et qu'est-ce qu'on voit Alors, une photo de Sacha Distel en action. Il a aussi joué Nuage de Reinhardt dans ce studio de la Caravelle. Et une photo de Gérard Felzer, qui est l'invité de la Marche de l'Histoire. Vous êtes en position musicale.
Oui, c'était un peu l'époque, on va pas dire baba cool, mais un petit peu. Donc j'avais des pantalons pas de def, quand même, ça rajeunit pas. Et puis ma guitare, alors je trimballais ma guitare parce que c'est vrai que l'avion était extrêmement silencieux. Dans le cockpit, les moteurs étaient loin derrière, parce que je vous rappelle que les moteurs, c'était une nouveauté, d'ailleurs un brevet, étaient dans des nacelles situées tout à fait à l'arrière de l'avion. Et du coup, dans le cockpit, quand on mettait les gaz, on n'entendait pas les moteurs. On entendait le cliquetis du totalisateur, c'est-à-dire tic-tic-tic, c'est le nombre de litres de carburant que vous dépensez. Et donc, pour ça, bah, y avait la place pour ma guitare, et donc je pouvais me présenter, pas comme Sacha Distel, mais presque.
Alors, quand le président Erey essaye de vendre sa Caravelle aux clients étrangers, il fait jouer du Mozart ou du Distel. Il sert des coupes de champagne remplies à ras-bord pour montrer qu'en vol, rien ne se passe. Des crayons sont posés en équilibre. Il ne tombe pas. Alors, qu'est-ce que c'est le marché à l'époque? Parce qu'il ne suffit pas de toutes ses qualités pour vendre son appareil. Le marché, il est dominé par les Américains.
Non, il est dominé. Non, parce qu'ils étaient encore aux avions à hélice, les Américains. Il y avait tellement d'avions qui ont été construits pendant la guerre, le DC-3 qui a fait suite au DC-4, un quadrimoteur, mais un moteur à explosion, au DC-6, on cherchait à utiliser ces avions. C'était trop dommage de les mettre à la poubelle tout de suite. Donc, on a tardé aux États-Unis à faire des moteurs à réaction. C'est pour ça que le génie de Erey et de son équipe à Sud Aviation, c'était de dire, en effet, on est les premiers, on arrive, et on a appris des Anglais avec le malheureux Comet, qui était un quadri-réacteur, comment il fallait faire, avec une forme nouvelle, on va essayer de le vendre aux Américains et faire un deal avec eux. Et ils ont été voir les Américains, ils ont fait une tournée gigantesque.
On va en avoir
partout.
Un écho, oui.
Et puis, ils ont essayé de faire un contrat avec Douglas. Et ils s'en fait doubler.
Mais attendez, les Américains, ils ont déjà un Boeing pour les longs courriers qui est disponible à la fin des années 50.
Le Boeing 707. Alors ils ont visé, et j'ai eu la chance de faire, j'étais le fossoyeur des avions d'Air France, puisque j'ai fait le dernier vol de la Caravelle et le dernier vol du 707. Le 707 était un quadrimoteur long courrier, pour faire l'Atlantique justement, mais ils n'avaient pas dans leur carton le moyen courrier, c'est-à-dire le Boeing 737 par exemple, ou le DC-9 qui est arrivé beaucoup plus tard.
Alors donc c'est un avantage pour la Caravelle, vous en avez cité un autre avant, et puis il y a cet argument de la liaison de Sud Aviation avec Air France. Air France, c'est la grande liaison Paris-Nice, hein, la liaison de prestige. Vous avez fait ça souvent, j'imagine.
Oh, très souvent, oui.
Et puis, c'est aussi des filiales. Air Maroc, Air Madagascar, je vous parle de la fin des années 50. Hein. Tunisair, Air Algérie, vous avez été sur Air Algérie?
J'ai été pilote à Air Algérie, oui.
Décidément. Oui.
Nous avons voulu faire le point de la construction en série de Caravelles. Aujourd'hui, 5 machines sortent chaque mois des chaînes de montage. Pour atteindre à ce stade industriel, 23 000 techniciens ont dû étudier pendant plusieurs années quelques 40 000 pièces. Et 500 000 heures de travail seront encore nécessaires pour que la première des 4 Caravelles destinées à Air Algérie soit prête à voler début 1960. Les multiples vérifications devront être complétées par un nombre considérable de tests sur les pistes et en vol.
La Caravelle est un appareil dont nous avons suivi la construction. Commandant, dans quelques minutes, vous allez partir avec la Caravelle pour une tournée de démonstration en Amérique du Sud.
Bien, nous partons d'ici pour Casablanca, Dakar, Récif, oui, sur la côte sud-américaine, puis Rio de Janeiro, Saint-Paul, Porto Alegre.
Et en Amérique du Nord?
En Amérique du Nord, nous abordons l'Amérique à Miami, en Floride, puis New York. Et ensuite, nous parcourons toute l'Amérique. C'est un avion moyen courrier, mais qui, je pense, franchira d'un seul bond l'Atlantique Sud, bien qu'il ne soit pas fait pour cela.
Varighe, inicia no Brasil a era do jato puro, voando com o Caravelle, impulsionado por dois reatores Rolls-Royce de 10 mil quilos de empuxo. O Caravelle cruza o espaço a fantástica velocidade de 800 quilômetros horário. Caravelle, o mais avançado bireator da atualidade. Varighe, a pioneira no Brasil também da era do jato.
Voilà, la Varig brésilienne a été parmi les premiers acheteurs avec Scandinavian Airlines. Alors, et puis donc Air France et les filiales d'Air France. Hein.
Alors au passage, bravo à vos documents sonores, là j'apprécie beaucoup.
Non mais on a un spécialiste de l'aviation qui s'appelle Franck Olivard, qui est notre recherchiste en chef aujourd'hui. Mais alors revenons au bilan de cette tournée qui passe par l'Amérique du Nord et au rapport de la Caravelle avec les clients américains.
Alors, évidemment, opération séduction, ça continue aujourd'hui d'une façon différente, mais c'est l'occasion, on l'avait fait pour le Concorde par la suite, c'est l'occasion d'inviter les personnalités, d'inviter les acheteurs potentiels. On a mis quelques hôtesses quand même, hôtesses de l'air, le charme français, la qualité, la beauté, tout ça, bon, ça fait partie du jeu. D'ailleurs, à l'époque, que je n'ai pas connu, les hôtesses n'avaient pas le droit de se marier. Bon, c'était une petite parenthèse.
Ni même de vivre avec un compagnon.
Oui, ça, on n'allait pas voir quand même. Hein. Ce n'était pas jusque-là. Et puis, on a essayé de décrocher. On a eu des compagnies, hein, United, qui a acheté des avions.
Moi, j'en connais qu'une, ça fait oui. United.
Oui, United.
United. Oui, oui. Oui.
Et puis, et ensuite, on a essayé de faire un deal en se disant, ce qui n'était pas complètement idiot, que vendre un avion français aux États-Unis, il fallait s'allier avec un industriel américain. Et donc, il y a eu un contrat qui a été fait avec Douglas en disant, regardez, c'est quand même une première, ça vole avec des moteurs derrière, on peut peut-être trouver un deal entre nous. Douglas avait un contrat en disant qu'au bout de 5 ans, il pouvait prendre sa liberté, ce qu'il a fait en piquant l'idée de la Caravelle qui en a fait le DC-9, qui lui, au lieu de 280 avions vendus pour la Caravelle, il en a vendu facilement le triple ou le quadruple.
Ah, parce qu'on a vendu que 282 exemplaires de la Caravelle?
Oui, c'est pas beaucoup. Enfin, c'est pas beaucoup et c'est beaucoup pour l'époque. Ça a été un demi-succès. Mais un demi-succès qui a été... des achats, non pas obligés, mais presque. C'est-à-dire qu'Air France, on a donné l'ordre d'acheter des Caravelles. Il en a acheté quand même un bon paquet, une cinquantaine. Et puis, toutes nos anciennes colonies également. Donc, avec ça, on est arrivé. Oui. Sabena, quand même. Et Scandinavian, surtout.
Oui. Swissair.
Swissair. Oui, oui, quand même. En Europe, on en a vendu quand même. Puis l'aviation, il n'y avait pas tant d'avions que ça.
Alors voilà, il faut parler de ça, parce qu'aujourd'hui, au Salon du Bourget, on va nous expliquer que la croissance du marché international et de 6% par an. À l'époque, il y avait seulement 3 ou 4% des Français qui avaient pris l'avion, une proportion beaucoup plus importante aux États-Unis, mais une proportion beaucoup plus faible dans la plupart des pays du monde.
En effet, très très peu de personnes avaient la possibilité de prendre l'avion. C'était quand même assez cher. D'ailleurs, c'est curieux parce que Air France, qui était propriété de l'État, ne pouvait pas fixer ses propres tarifs. C'était décidé au ministère. C'est quand même incroyable aujourd'hui qu'il faille demander l'autorisation et le tarif qu'il fallait appliquer. Et donc, mais c'était cette époque-là et il est vrai que c'était pas accessible. L'accessibilité à l'aviation, ça a été avec les gros porteurs, avec le 747.
Donc, l'avion est encore inaccessible à la plupart des Français. La voiture, en revanche, est accessible à un Français sur 7 à la fin de la 4e République. Oui. Et puis le Pyrex, le Formica et les frigidaires, accessibles à une énorme majorité de Français. Oui. Il paraît que Sudaviation fabriquait des frigidaires aussi.
Oui,
Frigéavia.
Oui, absolument. Il y avait des filiales comme ça. Il y a eu des auto-écoles aussi. Il y a des retombées comme ça inattendues. Mais après tout, ils voulaient diversifier leurs produits. Si l'avion ne marchait pas, il fallait bien faire travailler les gens.
Donc on pouvait toujours rêver à la Caravelle en ouvrant la porte de son frigidaire, parce que il y avait un avion en oui. guise de poignée. Ou bien, alors quand on avait des moyens déjà plus importants, on pouvait monter dans une voiture qui s'appelait la Caravelle.
Il y avait une Renault qui s'appelait la Caravelle. Floride, c'était magnifique. Il y a eu des photos de Brigitte Bardot dans cette Caravelle. Alors là, c'est un bonheur absolu.
Je vous rappelle que vous n'avez pas été le fiancé de Brigitte Bardot, c'était Sacha Distel.
Malheureusement, j'ai Bougrain Dubourg non plus. Et alors, du coup, j'ai eu une Caravelle, moi. C'est magnifique. Et c'est la première décapotable accessible au grand public, parce qu'on l'appelait la décapotable du garçon coiffeur, parce que finalement, elle n'était pas chère du tout. Et c'était un vrai bonheur, très joli.
Dites-moi, vous êtes le fossoyeur, ne l'oubliez pas.
L'accord franco-britannique pour la réalisation en commun d'un avion commercial bisonique est signé à Londres. Ainsi prend officiellement naissance le projet de l'ex-super Caravelle, devenu désormais la Concorde, sans eux, le plus ambitieux des projets aéronautiques jamais conçus en Europe, qui mettra New York à 3h30 de Paris dans 7 ans.
1962, c'est-à-dire 7 ans juste après le premier vol public du Concorde, le général de Gaulle choisit de ne pas diversifier les caravelles, de passer un accord avec les Anglais pour la préparation de Concorde.
Oui.
Alors, et le PDG, Pape Jojo Lacaravelle de oui. Sud Aviation, démissionne en disant que, ben non, il ne veut pas être le fossoyeur, lui non plus, de Lacaravelle.
C'est vrai qu'on n'avait pas les moyens de développer deux avions aussi innovants. Et il est vrai que toute l'énergie, toutes les dépenses publiques ont été pour le Concorde, croyant que la Caravelle en l'état pouvait se vendre encore alors qu'il fallait la modifier, l'adapter, augmenter son rayon d'action. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, j'ai fait la Caravelle 3, qui était le premier modèle d'Air France. On n'avait pas de reverse. Reverse, c'est-à-dire, vous mettez les moteurs à l'envers pour freiner à l'atterrissage. On avait un parachute, en revanche, comme les avions de chasse de la dernière guerre. Donc, c'était un petit peu dépassé, tout ça. C'est arrivé beaucoup plus tard. Beaucoup trop tard. Et c'est vraiment dommage parce que ça a laissé la place aux concurrents. Il y a Dassault qui a fait un avion formidable qui s'appelle le Mercure, qu'aurait pu être le remplaçant de la Caravelle, mais il l'a joué tout seul, là aussi, sans coopération. Et finalement, on avait déjà dans les cartons l'Airbus A320.
Mais quand on lit les carnets de Alain Perfitte, avec le résultat de ses conversations régulières avec le général de Gaulle, quand en 1964, les Anglais commencent à traîner les pieds, hésitent à continuer le projet Concorde, on lit sous la plume de Perfitte, de Gaulle aurait été presque soulagé si les Anglais avaient effectivement renoncé. Je ne suis pas sûr que ce Concorde, ce soit une si bonne affaire, tellement c'est cher.
C'est cher, mais alors il y a des retombées. D'abord, on a entretenu un savoir-faire. Et ça, c'est formidable. Tous les circuits de la Caravelle, circuits hydrauliques, jaune, vert, rouge, bon, c'est resté aujourd'hui dans la logique de l'Airbus. Et le Concorde, lui, a été le premier avion en commande de vol électrique, le premier avion à faire du transfert de carburant pour équilibrer le centrage, etc. Énormément d'innovations dont on a pu profiter quand même pour l'Airbus.
C'est curieux parce que dans la mémoire, on se souvient du dernier accident du Concorde, on ne se souvient pas des accidents des Caravelles. Septembre 61, au large du Maroc, 77 morts. Septembre 68, au large d'Antibes, pour des raisons inexpliquées, 95 morts. Biskra, oui. Un peu plus tard, tous les gens intoxiqués.
Oui, c'est vrai que, mais il n'y avait pas que la Caravelle. Hein. Au nombre d'accidents, la Caravelle n'a pas fait beaucoup plus d'accidents, peut-être beaucoup moins que le Boeing 707, par exemple. Donc, c'était général. C'est là où on voit qu'on a fait d'énormes progrès, parce que aujourd'hui, on transporte 3 milliards de passagers et on fait beaucoup moins d'accidents qu'à l'époque où il n'y avait même pas 100 millions de passagers transportés.
Merci à vous Gérard Felzer. Au moment où commence le salon de l'aviation du Bourget, vous nous parliez de la Caravelle dont vous avez fait le dernier vol. Jacques Sigal à la réalisation, Mehdi Fatta à la technique, Franck Olivard, mais je l'ai déjà dit, pour la préparation. Et vous êtes un mauvais coucheur aujourd'hui, Mathieu Vidard.
On va s'intéresser aux hypochondriaques. Oui. Ça concerne beaucoup de monde, vous savez.
Oui, c'est pas l'envol ni la joie. Merci à vous, on vous écoute dans La Tête au Carré dans un instant.